Bien, bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Maintenant que nos petits détails techniques sont réglés, nous allons ouvrir donc une conversation pendant une heure avec Gilbert Sinoué et Jean Tellet sur le thème de biographie et imaginaire. Autrement dit, comment des personnes réelles, des personnes ayant existé, entrent dans un roman. Et puis peut-être où se situe la frontière entre l'histoire, la biographie, le roman historique, qui sont des territoires que voilà, vous parcourez l'un et l'autre, de manière fort différente, d'ailleurs il faut bien le dire. Et alors là, a fortiori sur vos deux derniers romans, parce qu'on est vraiment dans des mondes très 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 différents, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je fais des petites présentations pour rappeler Gilbert Sinoué, que vous êtes né au Caire, vous êtes musicien, vous avez été formé à la guitare classique, à l'École normale de musique, et puis vous êtes l'auteur de très nombreux romans historiques, j'en cite quelques-uns, pas tous. Il y a eu Avicenne ou La route d'Ispahan, biographie romancier du grand médecin persan. Il y a eu le livre de Saphir, Le dernier pharaon, La dame à la lampe, qui était consacrée à Florence Nightingale, un sacré personnage. Il y a eu également Les nuits de Maritzbourg, qui était consacrée à Gandhi, qui est paru chez Flammarion il y a un an, c'était en 2014. Et puis le tout dernier s'intitule L'envoyé de Dieu, et il est publié aux éditions de l'Archipel. Il vient tout juste de sortir. Jean Tellet, vous êtes romancier, mais aussi auteur de bande dessinée, et vous avez notamment publié aux éditions Julliard Rainbow comme Rimbaud, c'était en 1991. Il y a eu ensuite Ballade pour un père oublié, Darling, Je, François Villon, ça c'était en 2006, Le magasin des suicides en 2007, et votre dernier roman s'intéresse à Héloïse et Abélard, et il s'intitule Héloïse Houille, et on le trouve chez Julliard.
Comme ça, on voit avec quoi ça rime.
On sait, voilà, d'emblée, on a une toute petite indication. Bon, alors, avant d'entrer dans vos romans respectifs et de voir en quoi vous abordez la question de la biographie et du roman de manière très différente, je voudrais justement vous poser cette question, parce que être historien, être biographe, écrire des romans historiques, ou bien écrire des romans inspirés par l'histoire, ce sont quatre positions complètement différentes, puis c'est un rapport à l'écriture aussi très très différent. Et donc ma première question, c'est, ça serait au fond de vous demander à tous les deux comment vous vous positionnez sur cette question de l'écriture et de l'histoire. Et Gilbert Sinoué laisse la parole à son voisin.
C'est compliqué, je peux pas lui passer la parole.
Alors c'est à vous, Jean Tellet.
Comment je m'y prends? Je m'y prenais d'ailleurs parce que je crois que je vais arrêter de faire des livres historiques, mais moi ce que je voulais, c'était à chaque fois être au plus près de la réalité, au plus près du nerf. Mais évidemment il y a toujours dans la biographie de quelqu'un comme Charles IX, que j'ai appelé Charlie IX, le Montespan et tout ça, il y a forcément plein de moments où il n'y a pas eu de témoignage, et donc il faut bien rentrer dans les trous de la biographie, et c'est là que le romancier rentre pour imaginer comment ce qu'il a pu se dire et se faire et tout. Mais en tout cas, j'essaye de toujours être le plus collé à la réalité possible. Et pour Héloïse et Abélard, pour Héloïse Houille, tout ce qu'on sait sur eux deux, je l'ai mis dans le livre. Et puis le reste, j'ai inventé. Par exemple, quand on sait que Abélard disait qu'avec Héloïse, ils avaient fait tout ce que deux corps peuvent se faire. J'ai essayé de me dire, mais au fait que deux corps ensemble, qu'est-ce que ça peut se faire, quoi, voilà.
Voilà. Là, il n'y avait pas de traces et de documents, donc il a fallu imaginer.
Oui. Mais on avait quand même des indications, parce qu'Abélard racontait qu'avec Héloïse, il allait jusqu'à lui donner des coups, mais que les coups qu'il lui donnait étaient plus doux que des baumes et tout. Donc je me suis dit, ah bon, donc ils avaient en plus des plans un peu SM et tout. Et je suis rentré là-dedans. Et puis, Héloïse avait aussi une doctrine qui était, tout ce que tu me fais, je te le fais, tout ce que je te fais, tu me le fais. Et à cette époque-là, la sodomie se pratiquait beaucoup, et elle était même revendiquée, prescrite par les médecins comme étant le meilleur moyen de contraception. Donc je me suis amusé à ce que Abélard fasse à Héloïse, et qu'elle-même, avec une carotte, réponde à Héloïse.
En fait, c'est les 40 nuances degrés revues et corrigées par Jean Tellet.
Ça y est, on est déjà rentré dans l'histoire d'Abélard et Héloïse. Je vais quand même laisser le temps à Gilbert Sinoé de dire comment vous, vous abordez cette question du rapport, parce que vous êtes quand même un grand familier du roman historique. Comment est-ce que vous abordez cette question du rapport entre l'histoire et l'écriture ?
Écoutez, je vais vous surprendre, je fais exactement comme lui. En fait, on se glisse dans la peau de... Non, ce qui me semble très important, c'est de coller à la réalité. Parce que les gens vous lisent et ils sont convaincus que ce que vous racontez est vrai. Donc tout l'aspect historique, il me semble qu'il faut être infiniment respectueux vis-à-vis du lecteur. Parce que, je vais prendre un exemple, célèbre Da Vinci Code. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué, un livre que j'ai d'ailleurs adoré et dévoré, c'est son avertissement au lecteur, tout ce que vous lirez est authentique, vérifiable, etc. Alors on s'aperçoit par la suite que c'est totalement... Ça, c'est pas bien. C'est pas bien vis-à-vis du lecteur. Donc, on colle à la réalité, comme dit Jean, et puis ensuite, on s'amuse. Quand j'écris la vie de Gandhi, c'est particulier parce qu'on a énormément de documentation, on a sa correspondance, donc c'était facile de. Mais il n'empêche qu'il a un rapport, par exemple, une amitié amoureuse très forte avec un juif allemand.
Voilà, bravo. Et avec un culturiste,
absolument,
c'est ça, ouais.
Hermann Kallenbach. Mm. On a leurs lettres, on a uniquement les lettres de Gandhi à Hermann, parce que celles d'Hermann à Gandhi ont été détruites. Donc celles qui manquent, comme dit Jean, on peut se glisser et imaginer ce qu'ils auraient pu se dire. Est-ce qu'ils ont copulé ou pas ? Est-ce que c'est le plaisir du romancier. Et heureusement qu'on a ça, parce que qu'est-ce qu'on s'emmerderait à écrire une histoire ?
Vous n'avez pas la contrainte qui est celle de l'historien, la contrainte de l'exhaustivité quand même. Le romancier a plus de liberté dans sa façon d'aborder l'histoire. Ne serait-ce que parce que vous n'êtes pas obligé de tout dire, vous prenez un angle. Voilà, puis il y a des choses que vous laissez de côté, qui sont peut-être moins amusantes ou moins intéressantes. Il y a quand même une marge de liberté pour le romancier qui traite l'histoire qui est infiniment plus grande.
Pardonnez-moi, je vais juste... bien sûr qu'on a qualifié ce que nous faisons de roman dit historique.
Oui.
Mais... Bien sûr, moi je ne réfute pas la case, au contraire, elle me plaît, m'en fous. Mais on peut attribuer cette appellation à plein de bouquins. Quand on lit un chef-d'œuvre comme Les Mémoires d'Adrien d'Ursenard, où elle fait parler Adrien qui évoque son amant, c'est un roman historique. Je veux dire, où s'arrête le roman historique et où commence ce qu'on appelle le roman dit strictement littéraire ? Je ne sais pas. Est-ce que Le Voyage au bout de la nuit n'est pas à sa manière un roman historique. Bon, cela dit, moi je revendique que ça ne me dérange pas.
Oui, alors ça c'est le fait que tout roman apporte finalement une information, une documentation sur l'époque où il se situe.
Mais en plus, ce qui est étonnant avec les écrivains, les romanciers, et moi j'ai vécu ça sur Charlie IX, c'est que des fois, ils croient inventer quelque chose. Et en fait, ça se révèle être la vérité. Par exemple, moi, quand j'avais voulu écrire un roman sur Charles IX, comment il décide de la Saint-Barthélemy, etc., je disais à mon éditeur, tu vois, j'ai un problème pour le titre, c'est que tous les livres sur Charles IX s'appellent Charles IX. Bon, et il dit, donc j'aimerais bien trouver quelque chose d'autre. Et puis, du coup, je décide de l'appeler Charlie, avec un Y, et 9, le chiffre romain. Comme ça, je me disais, ça donne un petit côté claque dans le dos, voilà, allez hop, et tout. Et puis, mon éditeur, il me dit, oh, mais quand même, comment tu parles de Charles IX et tout. Je dis, oh, allez, voilà. Et puis, je commence à écrire le livre. Et un jour, j'apprends que... pour les pièces de monnaie, qu'il y a eu une erreur pour Charles IX qui n'est jamais arrivée avec aucun roi. C'est-à-dire qu'il y a une série de pièces où sur l'arrondi de la pièce, il y a écrit Carolus IX, écrit en chiffre arabe. C'est jamais arrivé. Ce qui fait que moi qui avais inventé un truc qui croyait que c'était une connerie, et j'avais raison. Et du coup, mon éditeur m'a dit, si tu trouves la pièce chez un numismate, je te l'offre, et c'est ce qu'il a fait. Et du coup, j'ai cette pièce. Et ça, je me disais, c'est drôle, comme on connaît tellement bien les personnages, par exemple, tous les deux, de ce dont on parle et tout, que dans les trous, on peut être collé à la réalité sans le savoir soi-même.
Ça, c'est magnifique. Oui. Alors, Héloïse, Houille. Héloïse et Abélard, on en a fait, on les appelle les amants éternels, c'est-à-dire que la postérité a fait d'eux une sorte de couple complètement mythique. D'ailleurs, il suffit d'aller au Père Lachaise et de voir leur tombeau, c'est magnifique, c'est très romantique, c'est bon. Dans votre roman, c'est pas le versant romantique de la chose qui vous intéresse. Ça commence très sagement, donc Abélard, théologien, est sollicité pour venir donner des cours à la jeune Héloïse, qui est toute jeune, elle a 18 ans, c'est
oui,
ça,
c'est hein, ça
voilà.
Ouais, ouais.
Donc ça démarre très sagement. Et puis en fait, vous en faites vraiment la version hard de cette histoire-là. C'est incroyable, parce que c'est vraiment... je dois avouer qu'en lisant votre roman, j'ai découvert...
un tas de positions.
Alors pas un tas de positions, mais une version de l'histoire d'Héloïse et Abélard que j'ignorais.
Et je suis persuadé que c'est moi qui ai raison. Mais c'est vrai que ça a toujours été traité de façon cucu la praline.
Voilà.
Leur histoire d'amour et tout. Alors que quand on lit une grande lettre célèbre d'Abélard qu'on appelle Lettre de consolation à un ami, où il lui raconte sa vie et tout, et où il parle d'Héloïse, il raconte qu'ils y sont vraiment, vraiment, vraiment allés, quoi. Et quand après on lit les lettres d'Héloïse et Abélard, qui sont les plus belles lettres d'amour que j'ai jamais lues, elle se gêne pas du tout. Et par exemple, elle dit à Abélard, je n'ai pas le remords des péchés commis, j'ai le regret des plaisirs perdus. Et alors qu'elle était abbesse. Et à un autre moment, elle lui dit, si je pouvais à nouveau laisser ouvrir ma bouche et laisser aller ma langue, ce ne serait pas pour me confesser. Et elle ne parle que de trucs, mais alors hyper chaud bouillant, quoi. Et je me suis dit, je vais y aller. Ouais, oui. Et en plus, j'avais jamais écrit de livre comme ça, aussi trash, sexe et tout. Et puis en plus, je me disais que j'avais intérêt à attaquer dès le début, parce que vu qu'après, Abélard se fait castrer, forcément, il se passait beaucoup moins de trucs. Quoi.
Vous qualifiez votre roman d'obscène.
Oui, mais je trouve que c'est pas un gros mot, c'est bien obscène. C'est pas vulgaire, l'obscénité, c'est bien.
Non, c'est pas pornographique.
Non, pornographique, c'est pas
bien. Chose.
Et puis, ce que j'aime pas dans la pornographie, c'est que c'est toujours la femelle qui reçoit, le mâle qui donne et tout. Et je trouve que c'est un peu crapote et pas très intéressant au bout du compte. Tandis que là, avec cette doctrine d'Héloïse, c'est... réciprocité des plaisirs, tout ce que tu fais, je te le fais, toc toc toc, et là ça c'est plus rock'n'roll, c'est plus marrant, quoi.
Il faut dire quand même, Jean Tellet, qu'au moment où Héloïse et Abélard se rencontrent, on est donc au début du XIIe siècle, lui est un enseignant de grand renom, très recherché, et on imagine même déjà qu'il pourrait devenir pape. Autrement dit, cette histoire d'amour va faire tout basculer dans sa vie.
Oui, c'est vraiment ça. En gros, l'histoire d'Héloïse et Abélard, c'est une petite gamine qui s'appelle Héloïse, orpheline, qui se trouve au couvent d'Argenteuil, et elle a un oncle, Fulbert, un oncle et parrain, qui est chanoine sur l'île de la Cité. À l'époque, Paris, c'était l'île de la Cité. Et un jour, il décide de la faire sortir du couvent pour qu'elle habite chez lui, et elle était douée pour les études. Et tout d'un coup, Fulbert, ça, il était très moderne, parce que s'il y a un truc dont on n'avait rien à foutre au XIIe siècle, c'est bien que les femmes fassent des études. Et lui, comme il sent que c'est sa passion, il décide de lui trouver un précepteur pour lui donner des cours du soir. Et il se trouve que sur l'île de la Cité, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Abélard, qui est le plus grand philosophe de son temps, qui est adulé par les étudiants de toute l'Europe, qui viennent d'Angleterre, de Suède, d'Italie, tout de partout pour assister à ses cours. Et Fulbert convainc Abélard de donner des cours du soir à Héloïse. Et en fait, de cours du soir, ils vont faire que baiser comme des dingues. Voilà. Et un jour, évidemment, Fulbert finit par l'apprendre. Il dira à son procès, je les ai vus comme Vénus et Mars. Il engage trois larrons et il fait châtrer Abélard.
qui n'a plus d'autre choix que de rentrer et dans voilà. les ordres.
Et Abélard, une fois qu'il est castré, Héloïse arrive et tout, et il dit, ben voilà. Entre-temps, ils s'étaient mariés, et puis ils avaient eu un enfant. Et Abélard, il dit, ben voilà, moi qui étais adulé, qui était... il était comme une rock star de l'époque. Il dit maintenant tout le monde va se foutre de moi. D'ailleurs, on commence à m'appeler Pierrette, Quick Quick. Enfin, bon, il dit la vie va être un enfer. J'ai plus qu'une solution, c'est de rentrer dans un monastère et puis d'écrire et puis voilà, de finir ma vie comme ça. Parce que dehors, ça ne va plus être possible. Mais comme Abélard avait épousé Héloïse, il y a eu un gros problème, c'est qu'à l'époque, quand dans un couple marié, l'un des deux voulait entrer dans les ordres, il ne pouvait le faire qu'à condition que l'autre le fasse aussi. Donc Abélard, 40 ans, dit à Héloïse, voilà, moi je voudrais devenir moine, mais toi tu sais ce qu'il faudrait que tu acceptes. Est-ce que tu acceptes ? Au début, Héloïse va dire, ben non, j'ai passé toute mon enfance dans un couvent, j'en suis sorti 2-3 ans, je ne vais pas retourner dans un couvent à vie, en plus, et sans jamais te voir. Et en plus, elle était très, très en avance, cette fille, parce qu'en plus, elle ne croyait pas en Dieu. Quoi. Elle est devenue abbesse sans croire en Dieu. Et elle était d'une modernité incroyable. Déjà, le truc que je racontais, tout ce que tu me fais, etc. Mais en plus, quand ils ont eu un enfant, elle a refusé qu'il ait un prénom chrétien. Au XIIe siècle, elle l'appelait astrolabe, un instrument pour déterminer la hauteur des astres à l'horizon. C'est comme si maintenant elle avait un môme qu'elle appelait iPhone, quoi. Et c'était d'une modernité, mais folle. Et tout dans Héloïse est d'une modernité. Mais beaucoup d'historiens disent que c'était en fait la première féministe d'Occident. Mmh. Et quant à leur histoire d'amour, beaucoup d'historiens disent aussi que l'amour fut inventé au XIIe siècle par Héloïse et Abélard. L'amour, mais l'amour total, genre Tristan et Isolde, Roméo et Juliette, sauf que là, c'est vrai, quoi. Donc ça en faisait un personnage incroyable. J'aurais adoré la rencontrer, moi, Héloïse.
C'est vrai que c'est une histoire d'amour en fait qui dépasse et qui transcende absolument toutes les catégories. C'est-à-dire on passe du bonheur, de l'infusion, d'une sensualité absolument extraordinaire au malheur le plus absolu, quoi. C'est une histoire d'amour qui passe toute la palette des émotions, des expériences, parce qu'ils expérimentent tout.
Ils voient, oui, tout.
Tout.
Tout, tout, tout. Et jusqu'à la fin de leur histoire où les sœurs qui ont assisté à ça ont affirmé que c'était vrai. C'est tellement incroyable qu'on peut en douter. Mais en tout cas, si c'est une légende, elle est vachement belle. Mais il semblerait même que ça puisse être vrai. J'ai même demandé à des médecins, est-ce que mécaniquement, ça peut être possible ? C'est-à-dire que quand Abélard est mort, il avait demandé à être enterré dans le couvent d'Héloïse. Alors déjà, un abbé qui se retrouve enterré dans un couvent de bonnes sœurs, ça n'arrive pas tous les jours. Mais donc il s'est retrouvé là. Et puis quand Héloïse est morte, elle a demandé à ce qu'on mette sa dépouille sur celle d'Abélard. Alors là, un abbé et une abbesse enterrés ensemble, c'est encore plus rare. En tout cas, quand on a balancer le corps d'Héloïse sur celui d'Abélard, qui était au fond du caveau, comme ça, mort depuis 20 ans, donc on suppose en os ou avec des lambeaux, des trucs comme ça. Par pression sur la poitrine et tout, les bras, et sans doute par irrégularité du sol, ou je sais pas quoi, les bras d'Abélard seraient soulevés et rabattus sur le dos d'Héloïse. Et là, enfin, elle était dans ses bras pour l'éternité. Mmh. Ça, c'est la classe, hein.
Ça, c'est beau. Alors, c'est là-dessus, bien sûr, qu'après, le mythe s'est créé.
Il y a une question que j'aurais voulu poser à Jean. Quand on cherche parfois des sujets, ou parfois les sujets viennent à vous, mais en approchant d'Héloïse et de Valère, on se dit, mais tout a été dit, qu'est-ce que je vais écrire là-dessus ? Mais je vais me faire jeter, il n'y a plus rien à
enlever.
Comment
trouvé,
l'idée est venue ? Pourquoi tu
l'as mis ? Mais c'est vrai que tu as raison, parce que quand j'ai dit à mon éditeur, je vais écrire un livre sur Héloïse et Abélard, il me fait bon. Et je lui dis, je veux l'appeler Héloïse Houille. Il est resté stoïque, il a tourné un truc, il a tapé sur Internet. Et il m'a dit, il y a eu dans le monde 1637 livres écrits sur Héloïse Abélard, aucun ne s'appelle Héloïse Houille.
Et on
a parlé d'autres choses et tout.
Oui, mais pourquoi le sujet était venu ?
Eh ben, je ne me souviens plus.
T'as pas eu peur,
il y a forcément eu un petit déclic à un moment qui a donné envie d'aller...
Oui, il y a forcément eu un déclic, mais je l'ai oublié, lui. Ouais. Et, mais à un moment, j'habitais au Père Lachaise, et au Père Lachaise, il y a où ils sont enterrés, il y a toujours des fleurs sur... Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a le tombeau où ils sont couchés tous les deux côte à côte, elle en abbesse avec tout l'équipement, la guimpe et tout... À côté, lui en moine, avec en abbé, avec la tonsure et tout. Mais maintenant, il y a des grilles autour du tombeau, parce que avant il y en avait pas. Mais beaucoup d'amants venaient voir les amants éternels et ne voulaient pas que voir les amants éternels. Ils baisaient sur les Héloïse et Abélard en gisant, quoi. Donc ça l'affichait mal. Et puis il y a eu un truc comme quoi il fallait se couper des poils pubiens et les balancer sur le truc d'Héloïse et Abélard, que ça portait bonheur aux histoires d'amour. Alors tu allais faire un tombeau velu et tout. Donc maintenant il y a des grilles autour, quoi. On peut plus s'en approcher.
On peut plus approcher. Voilà, c'est ça. C'est très impressionnant, Jean Tellet, parce que bien sûr, il y a quantité d'informations et de détails. Donc, ça se passe au XIIe siècle sur les vêtements, sur ce qu'on mange, sur l'intérieur des maisons. Et puis, il y a la langue. C'est-à-dire que, voilà, vous, il parle et vous écrivez avec cette langue du XIIe.
Oui. Et mêlé à une langue actuelle, pas donc, quand il parle, mais moi, quand je décris, je me dis, je ne vais pas écrire ça comme au XIIe siècle. De toute façon, au XIIe siècle, on ne parlait pas français. Héloïse et Abélard, ce sont toutes leurs lettres, c'est en latin. Le français n'existait pas encore. Et je me dis, et c'est pas des gens du XIIe siècle que je m'adresse, ils sont tous morts. C'est des gens d'aujourd'hui. Donc je me dis, à la fois, il faut qu'il y ait une écriture un peu d'aujourd'hui, puis avec des mots comme moi j'ai, comme ça. Mais en même temps, retrouver la langue de l'époque. Et puis quand ils mangent, je me suis beaucoup renseigné pour que les plats qu'ils mangent soient des plats de l'époque. Ils mettent la table, par exemple, nous on a encore une expression, on dit dresser la table avant de manger, mais à l'époque c'était ça, les tables comme celle-là n'existaient pas, c'était des tréteaux et on dressait la table, on mettait une planche dessus, et donc moi dans mon livre j'ai voulu qu'il y ait tous ces trucs-là, quoi.
Et le Montespan
ouais. Pareil, ouais. Ah oui, c'est ouais. Ça, essayer d'être le plus près.
Bon, on va revenir sûrement à ces questions de documentation et de rapport à l'histoire, mais je voudrais qu'on présente le dernier roman de Gilbert Sinoué.
Ça alors, n'a vraiment
vous,
rien à voir.
Vous vous attaquez à un sacré vraiment. Personnage, là. Vous me direz...
On est très loin.
Alors là, on fait le grand écart. Hein. Là, c'est,
mais il y a le côté sexuel, quand même.
Alors, il y a un côté... Oui, mais enfin, c'est pas tout de suite évident. C'est quand même... vous aviez déjà écrit « Moi, Jésus ». Alors, vous avez déjà une petite familiarité avec ces personnages. Bon, voilà. Cette fois-ci, c'est donc le prophète Mahomet auquel vous consacrez...
Oui. J'aurais dit après, prophète Houille.
Prophète Houille. Alors, vous consacrez un livre sur lequel moi j'hésite beaucoup à dire, parce que on pourrait presque dire que c'est une biographie, c'est incroyablement documenté. Et en même temps, bon voilà, on est vraiment entre roman historique et biographie, là pour le coup, on est un peu entre les deux.
Non, en fait, le roman historique existe dans la mesure où, pour raconter la vie du prophète, je me suis dit, je vais quand même pas amuser à monologuer.
Donc il y a une astuce de romancier.
Me suis dit, bon, imaginons que 40 ans après la mort du prophète, il y a un jeune homme, un jeune scribe, qui se dit, mais ce prophète, c'était qui? Je l'ai pas connu, on en parle, etc. Et il se met à la recherche d'un témoin, de quelqu'un qui aurait vécu avec le prophète, qui aurait été l'un de ses compagnons. Il va le retrouver et il lui dit, raconte-moi. Ce mec, c'était qui? Voilà. Ça, c'est l'aspect
romanesque. Ouais.
Mais évidemment, tout l'aspect de sa vie, la vie du prophète, vous pensez bien qu'avec les temps qui courent, je ne me serais pas permis de jouer à Abélard et Héloïse. Donc là, je suis conforme à la réalité la plus absolue. Je ne pouvais pas me permettre d'imaginer même des séquences, puisque même pour la couverture du bouquin, on a eu un souci avec mon éditeur. on avait mis une petite silhouette sur une colline, et tout de suite, des amis musulmans m'ont dit, mais tu es devenu fou. On ne représente pas le prophète. Je dis, mais on ne le voit pas, c'est une silhouette. Ah non, même pas la silhouette. Donc, c'est vous dire que dans le texte, j'ai été extrêmement...
Mais tu n'as pas pu écrire non plus que c'était un type qui avait attrapé un coup de soleil, et puis après, il dit...
Non, mais on raconte qu'il était...
C'est quand même ça, l'histoire.
Eh ben non, figure-toi que non. Moi, j'étais très surpris en travaillant sur le bouquin. D'abord, il faut savoir qu'on n'a que très peu de sources, puisqu'il n'y a eu qu'une biographie authentifiée, reconnue, des décennies après la mort du prophète. Cette biographie digne de foi, puisque l'homme qui l'a écrite a recueilli pas mal de témoignages, tradition orale, il y avait 5 exemplaires, c'était manuscrit évidemment à l'époque, 4 ont disparu, un seul a été récupéré par un autre biographe syrien, lequel s'est amusé à le modifier à sa manière, à amener des changements, etc. C'est tout ce qu'on a. On n'a que ça, véritablement, comme source. Donc voilà, moi je me suis fondé sur celle-là, et puis sur ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire la tradition orale, qu'est-ce qu'il racontait. Mais là où j'ai été très surpris, c'est que moi, pour être très franc, j'avais une vision de ce bonhomme qui est celle que nous avons à peu près tous et qui est en plus terriblement défigurée par ce qui se passe actuellement. Mais on s'aperçoit qu'il y a en fait deux bons hommes. Il y a un type qui n'a rien à envier d'abord dans sa première partie de vie lorsqu'il vit à La Mecque, qui grandit à La Mecque, est orphelin, etc. C'est un type qui dit qu'il a entendu des voix. C'est Jeanne d'Arc, pardon. C'est Moïse. C'est le buisson ardent. C'est Abraham. Je veux dire, qu'est-ce qui le différencie à ce moment-là de tous ceux qui l'ont précédé? Il a le droit d'entendre des voix. Bon, et il prêche rien de plus que ce qu'a prêché Abraham. Il n'y a qu'un seul Dieu, pas d'idole, abat les polythéistes. C'est ça le premier message de Mahomet. Jusqu'au moment où il va être persécuté, pourchassé, menacé de mort par tous les mecs de La Mecque, si j'ose dire, qui eux lui disent « Mais c'est qui ce mec? Il vient nous emmerder. Nous, les idoles, on adore ça. Il y en a 350. Ce que peu de gens savent, c'est que la fameuse pierre noire, la Kaaba, était déjà vénérée bien avant, à l'époque pré-islamique, que les circonvolutions autour de la pierre existaient déjà, sauf que c'était des idoles. Et lui dit « Non, vous êtes totalement fous, les idoles, c'est fini, il n'y a qu'un dieu. » Jusque-là, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'il y a un deuxième Mahomet, dont les abrutis d'aujourd'hui s'inspirent, c'est que lorsqu'il quitte La Mecque, parce qu'il est en danger de mort, je répète, ce type, ils veulent sa peau. Il était protégé par son oncle. Le jour où son oncle est mort, c'est terminé. Les pactes entre tribus s'arrêtent. Il va à Médine, ce qu'on appelle l'année de l'Hégire. D'accord ? Et là, c'est plus du tout le même homme. D'abord, il prend les armes, alors que jusque-là, il disait c'est interdit de verser le sang. Interdit. Personne ne doit jamais verser le sang, c'est Jésus. Il prend les armes. Le djihad, malgré tout ce qu'on vous racontera là-dessus, est militaire. Parce que c'est vrai que beaucoup de musulmans vous disent « Mais non, le djihad, c'est l'effort sur soi. » Si, dans la première partie de sa vie. Mais dans la seconde, c'est les armes. Et là, il devient un militaire. C'est un guerrier, le type. Et un guerrier qui va imposer... Alors, il y a une grande différence qui m'a beaucoup intéressé. C'est entre Jésus et Mahomet. On a d'un côté Jésus qui a une idée à défendre. Le maître est l'égal de l'esclave, etc. La non-violence. Et qui va jusqu'à mourir pour son idée. Moi, j'y crois, je vais mourir, tant pis. Et vous avez un autre qui, lui aussi persécuté, mais qui ne va pas accepter de mourir pour son idée. Il va au contraire l'imposer. Et ça, ça m'a beaucoup frappé chez les deux personnages. Il y en a un qui accepte de mourir pour son idée, et l'autre qui dit non, je vais les faire mourir. Grande différence.
Grande différence, oui.
C'est ça qui est... Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens... précisons aussi que ça se passe il y a 1500 ans.
Voilà, ah oui, il faut jamais... Ça, et ça, c'est important. Demander,
C'est quoi la différence de temps entre le moment où Jésus aurait vécu et Mahomet
Jésus, c'est 33 ans de notre siècle. Ouais. Lui, c'est 7e siècle.
Ah ouais.
pratiquement 600 ans plus tard.
C'est un gros écart. Ouais. Mais c'est intéressant parce que justement, dans votre livre, avant d'arriver à la naissance du prophète, vous remontez à toute l'époque pré-islamique en situant justement le contexte avec, oui. C'était une situation clanique avec des tribus qui n'arrêtaient pas de se battre pour un puits ou pour
C'était Laurence d'Arabie.
Voilà. Et puis, il y avait donc l'Empire byzantin d'un côté, les chrétiens, de l'autre, il y avait les Perses. Et c'est dans ce contexte-là que va naître, donc dans un désert où il n'y a rien.
Voilà.
Rien.
Vie tribale, extrêmement dure, d'où le côté guerrier de Mahomet, parce qu'ils n'étaient pas dans la dentelle, les types. C'était des combats pour un puits, pour un terrain, pour. Donc c'est un combat très rude. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, bien sûr, il y a le côté j'épouse 11 mondes femmes, etc. Bon, ça, on ne va pas revenir là-dessus. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que il faut savoir qu'à l'époque, avant le prophète, les femmes n'avaient. On parle aujourd'hui de la femme musulmane, et on dit la pauvre, elle est voilée, machin, etc. Ce qui est vrai. Mais il faut savoir qu'avant le prophète, les femmes musulmanes n'avaient strictement aucun droit. Mais quand je dis aucun droit, c'était des Kleenex. Les types rentraient d'une guerre entre tribus, ils s'envoyaient toutes les bonnes femmes qui étaient là, ils les mettaient enceintes et ils les jetaient. Et elles n'avaient aucun droit. Il est arrivé, il a dit stop, vous ne pouvez pas faire ça. Il a donné un rôle à la femme, il l'a autorisé à hériter, chose qui était absolument aberrante, même si la part d'une femme est la moitié de celle d'un homme. Il a dit, vous pouvez épouser que 4 femmes, précisons-le,
voilà,
parce que c'est ça la
nuance. Ça apparaissait comme une limitation.
C'était
en fait.
Une limitation ça, à voilà. l'époque. C'était pas, alors tout le monde rigole, ah oui, ils peuvent épouser 4 femmes. Non, à l'époque, c'était, vous êtes devenu fou. Vous pouvez pas utiliser les femmes comme ça. Vous êtes limité à 4 femmes. Et si vous en épousez 4, il faut qu'elles soient exactement dotées de la même manière. Si tu offres une bague à l'une, tu offres une bague à l'autre. C'était une forme de révolution à l'époque.
Et quand il disait tout ça, il disait que c'était Allah qui lui avait dit ça.
Absolument. Absolument. Et là, on tombe devant des histoires absolument, évidemment, très bizarres, où on voit l'osmose. Il y a eu à un moment donné, c'était très poreux tout ça entre les Juifs. Il faut se préciser aussi que la région était très occupée par des tribunes juives. À Médine, il y avait 3 grosses tribus juives extrêmement importantes. Byzance n'était pas loin. Les chrétiens circulaient. Il y avait des monastères dans le coin. Donc, évidemment, si je dis ça, et que ce soir il y a un djihadiste dans la salle, je ne vais pas vivre longtemps. Mais il est évident qu'il a peut-être aussi écouté le soir au coin du feu les juifs qui lui disaient « Mais nous, on a un dieu. Il s'appelle... on ne peut pas prononcer son nom. Yod-Heh-Vav-Heh. » Les chrétiens disaient, nous on a eu Jésus, la Vierge Marie, parce que tout est reconnu dans le Coran. C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'il prend tout. La Vierge Marie, Jésus, Moïse, il dit à un moment donné, qui peut renier la religion d'Abraham, sinon l'insensé. Enfin, il a des attitudes extrêmement écuméniques. Mais tout ça fait qu'il y a eu de l'influence. Il y a eu des... Alors, il y a 2 anecdotes que j'ai trouvées assez étonnantes. Il est à Médine. Il rencontre un juif, puisqu'il y en avait énormément, et il lui dit, viens dîner. Et l'autre dit, ah non, je peux pas, c'est jour de jeûne. Pourquoi tu jeûnes? Il dit, parce que c'est le Yom Kippour. On jeûne. Ah bon? Il rentre chez lui, il décrète que le 10e jour de tel mois, le mois de Ashura, les musulmans doivent jeûner. Il croise un chrétien. Tu viens bouffer? Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que c'est carême. C'est quoi carême? Ah non, pendant... très bien, ils rentrent, les musulmans, 30 jours.
Donc tout ça, c'est pas Allah qui l'a dit.
Oui, mais aller dire ça, là je me prends des libertés ce soir, je prendrai au risque. Mais je pouvais pas dire ça à des amis musulmans, je me fais descendre. Aller dire à un juif convaincu, Moïse c'est une légende.
En plus, ce qui est très compliqué...
Il y a des thèmes qu'on peut aborder là, comme ça, mais vous ne pouvez pas. Moi, je connais des amis juifs, quand je leur dis, mais vous savez, peut-être que Moïse, c'est Akhenaton, c'est un des prêtres d'Akhenaton qui a foutu le camp, etc. Il n'a pas pu ouvrir la mer rouge, il est passé à gué. Mais tu es fou. Voilà, c'est ça le problème des religions. C'est que dès l'instant où vous dites, moi, la marraine de mon fils est une catholique convaincue, dites-lui que... Bon, peut-être que Jésus n'est peut-être pas ressuscité, mais je me fais jeter de sa maison. C'est ça. Donc, ce qu'on se dit là, on peut pas le dire normalement.
Alors, en plus, Gilbert Sinoué, il y a une chose qu'il faut dire concernant le Coran, et vous le dites bien sûr dans votre roman, qui complique encore les choses, c'est le fait que le Coran, c'est une parole, et que cette parole, elle a été fixée par écrit,
à jamais,
mais longtemps après la mort du prophète. C'est-à-dire, il s'est passé suffisamment de temps pour que cette parole, voilà, avec le temps, être. Voilà, donc ça c'est une autre difficulté du Coran et de la
parole.
C'est
ça le problème, voilà. C'est que le Coran, du temps du prophète, il y avait des gens qui notaient, faut le préciser, sur des bouts de bois, des tessons, des machins, des pots, on notait. Tout ce qu'il disait était noté, il y avait même un scribe attitré qui notait tout. Mais quand à un moment donné, après sa mort, pas longtemps après sa mort, une quinzaine d'années, 20 ans, on a décidé de... Quelqu'un s'est dit, mais et si on recoupait tout ça? Tout ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, il a trouvé une opposition. Il a dit, mais non, il n'a jamais dit qu'il fallait regrouper tout ça. Oui, mais quand même, c'est important, c'est la parole de Dieu. Et là, on a fait appel à un travail de fou. Mais ils ont vraiment bien bossé, parce que c'est pas, croyez-moi, ça n'a pas été fait à la légère. Il disait, mais dis-moi, il t'a dit vraiment cette phrase ce jour-là? Ah oui, je sais que ce jour-là, il m'a dit telle phrase. Si, qui peut renier la religion d'Abraham? Bon, je vais vérifier. Et ils allaient demander un deuxième, et un troisième. Puis on disait, mais tu sais, il y a un mec qui en sait plus, mais il n'est pas là, il est en Syrie. Ils envoyaient des émissaires pour aller contrôler. Donc, on ne peut pas dire que le Coran... Mais le problème, c'est qu'il y a des contrariétés dans le Coran. C'est qu'il y a un verset qui dit blanc, et l'autre dit noir. Mmh. Alors, quand on disait au prophète, mais tu nous as dit hier ça... Il y a un verset qui... Le dernier des versets annule le précédent. Et c'est comme ça qu'on a le fameux bouquin de Salman Rushdie, les fameux versets sataniques. Pourquoi ? Parce qu'un matin, à la Mecque, il a vu qu'il dressait contre lui tous les habitants qui voulaient sa peau. Et il se dit, merde, mon histoire, elle va tourner mal. Et il arrive un matin à la Kaaba et il dit, il annonce une sourate et il dit, quant aux idoles, il y avait trois idoles importantes, Alat, etc. Elles sont reconnues et nous devons aussi les idolâtrer. Puis il rentre chez lui et il y a ses disciples qui disent « Mais tu nous as dit que le monothéisme était essentiel et là tu nous dis maintenant que les idoles, on peut se mettre à genoux devant elles. » Et là, il s'aperçoit qu'il a fait une bourde. Donc il refait demi. Alors lui, il dit que c'est là que le problème entre, que l'ange Gabriel arrive, lui dit, mais qu'est-ce que tu as été raconté? T'es devenu fou? Il dit, mais j'ai entendu la parole de Dieu. Il dit, mais non, désolé, mauvaise réception. C'était le diable. Alors là, il retourne et il dit, j'ai été inspiré par le diable. Et c'est ce qui a donné lieu au fameux verset satanique. Mais ces versets existent dans le Coran. Le pauvre Salman n'a rien inventé. Mais vous avez des musulmans qui vous disent, c'est impossible... C'est totalement bidon. Mahomet n'a pas pu être inspiré par le diable. Et là, on a des débats théologiques.
Et là sont tous les débats qu'on
va voir. Pour les 2500 ans à venir.
Vous avez lu, relu peut-être le Coran entièrement pour pouvoir écrire le...
Je l'ai lu, mais c'est très hermétique. Il ne faut pas imaginer que c'est facile.
C'est pas un texte facile.
Même les théologiens aujourd'hui, sur l'histoire du voile, etc., qui est née d'ailleurs d'une anecdote, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de sanitaire. Donc les bonnes femmes, qui étaient toujours très légèrement vêtues, il faut le savoir, avant le prophète, et même de son vivant... Le soir, elles allaient faire leurs besoins hors des tentes. Et elles étaient évidemment harcelées par des mecs qui les attendaient au passage. Elles sont venues se plaindre chez le prophète. Elles ont dit, mais écoute, on est tout le temps, c'est de l'harcèlement sexuel, on ne peut pas continuer comme ça. Il a dit, mais vous avez vu comment vous êtes sapées? Habillez-vous décemment. Couvrez votre poitrine, vous avez les seins à l'air. Donc la fameuse histoire que l'on voit maintenant dans les rues de Paris, d'ailleurs, du hijab, cette robe longue qui vous couvre... mais pas le visage au départ, c'est né d'une histoire de sanitaire. Allez expliquer aujourd'hui à une musulmane fervente que les sanitaires existent depuis, qu'il y a des chiottes dans les maisons, qu'on n'est plus obligé de se saper pour aller faire pipi. Voilà, vous vous trouvez tout à coup menacé de mort. C'est ça le drame.
Et l'histoire de pas manger de porcs, est-ce que... Moi, j'ai entendu que c'était parce qu'à un moment, les porcs avaient une maladie et tout ça, et que c'était en fait pour protéger la population, c'est qu'on disait...
C'est
voilà. Le porc, les juifs l'avaient déjà décidé avant, les tribus juives, parce qu'elles erraient dans le désert, et s'il y a une viande qui tourne
vite,
à la vitesse grand V, avec 45 degrés de chaleur, c'est le porc. Mmh. Donc les mecs, ils mangeaient ça, ils crevaient.
Mmh. Et depuis, c'est devenu animal, voilà. Je ne sais pas quoi, diabolique.
Il ne faut pas manger du porc, parce que le vin, c'était pareil.
C'est pareil, ouais.
Le vin, ça a commencé parce qu'il avait décidé qu'il fallait faire l'appel à la prière. 5 fois par jour, il fallait appeler les musulmans à venir. Et un jour, le mec qui était préposé à l'appel à la prière est arrivé, et ça a donné... Il était ivre-mort. Et il a dit, mais c'est pas possible. Et il a commencé par dire, l'alcool interdit avant d'entrer dans la mosquée. C'est-à-dire, si vous venez à la mosquée, venez sobre. Mais ensuite, il a rencontré d'autres soulards, et il leur a dit non. Et puis la troisième interdiction de l'alcool est due à quoi ? C'est qu'il pensait bien qu'un guerrier ivre mort ne peut pas se battre avec 40 degrés à l'ombre. Mmh. C'était un truc militaire. On ne boit pas, on picole pas quand on va aller se battre. Mais alors, tous ces préceptes sont devenus aujourd'hui immuables. C'est ça l'absurdité du truc.
Est-ce qu'on est certain qu'il a existé ?
Oui.
Ça, mais vraiment, vraiment, on a des preuves.
On est plus certain que...
Mais on a des traces osseuses, il y a quelque chose...
Il y a son tombeau.
Mais on sait qu'il y a quelque chose dedans ?
Oui. Il y a son tombeau, il y a des témoins, il y a oculaires, non.
Et Jésus-Christ ?
Il veut me poser des problèmes. Mais Jésus aussi, on sait qu'il a existé. On est moins sûr de Moïse.
Ah, je connais l'histoire la plus courte, l'histoire drôle la plus courte du monde. C'est Joseph qui dit à Marie, « Quoi ?» Et voilà.
Elle est bien, hein ?
Elle est courte. Elle est très, très courte.
Moi, j'en ai une meilleure. Il y a Jésus, Moïse et un petit vieux qui joue au golf. Alors, Jésus, on voit la première balle. Elle part, pouf, au milieu d'un étang, il ne se dégonfle pas, il marche sur les eaux, il récupère la balle, il la renvoie. Moïse, même coup, l'étang, Moïse tend sa canne, les eaux se fendent, il récupère la balle, il l'envoie. Puis le petit vieux dit, mon tour, oui, vas-y. Il tape, la balle passe sur un arbre, un deuxième, un troisième, un quatrième, elle ricoche sur une camionnette qui passe, elle repasse sur le casque d'un motard, elle repasse sur l'arbre et elle finit pile dans le trou. Et t'as Moïse qui se tourne vers Jésus qui fait... Tu comprends pourquoi ça me fait chier de jouer avec ton père ?
Belle. Bon. Si vous en avez encore une ou deux pour tout à l'heure, vous nous les gardez. Mais j'aimerais bien, Gilbert Sinoué, qu'on revienne aux femmes. Parce que tout à l'heure, Jean Tellet disait que Héloïse était incroyablement moderne. Et il y a un personnage qui est quand même très important dans l'histoire du prophète, c'est Khadija, sa femme. D'abord, quand ils se rencontrent, elle a 40 ans et lui en a 25, donc c'est une femme déjà. Elle est riche, très riche, et à ses côtés, elle n'a jamais douté. C'est-à-dire, elle a été présente, les histoires de paroles comme ça qui arrivent. Elle a assuré auprès de lui une sorte de rôle d'encouragement absolument.
Elle l'a soutenu.
C'était pas une femme...
Oui, elle a 40 ans, il en a 20, il l'épouse,
elle est très riche.
Bourrée aux as, comme on dit aujourd'hui. Et elle va l'aider, il va être porté par elle. Et dès qu'il va lui dire, écoute, j'ai rencontré l'ange Gabriel... elle y croit.
Elle y croit tout de suite.
Elle y croit.
C'est ça qui est.
Mais elle y croit jusqu'à un certain point. Et pour être sûre que le type dit vrai, elle va voir son cousin. Et le cousin de Khadija est un moine chrétien. C'est ça qui est fou dans l'histoire. C'est un chrétien moine qui dit c'est le prophète. C'est le troisième qu'on attend. C'est ça qui est délirant, en tout cas.
Et en plus, il avait les signes, hein, parce que on avait annoncé qu'il y aurait un prophète pour les Arabes, qui serait orphelin, c'était le cas de Mohammed, et qu'il aurait une marque...
Oui, un bleu dans le
dos. Ouais. Et il réunit les deux, les deux signes.
Là, le somme entre la légende et aller savoir. C'est tout
alors,
ça,
à propos de légende, il y a une histoire incroyable, ça j'aimerais bien que vous m'expliquiez, parce que vous relatez un épisode, alors il est enfant... Et à l'époque, on mettait les enfants chez des nourrices dans le désert.
Les tribus, oui.
Voilà. Et un jour, il joue, là, dans le désert. Il y a deux hommes en blanc qui arrivent, qui ouvrent le ventre de l'enfant, qui lavent les entrailles dans la neige, qui remettent les entrailles, donc qui retirent le cœur.
Ils lavent le cœur.
Lavent le cœur, ôtent un caillou, ils referment le tout, il n'y a pas de cicatrice. C'est une histoire incroyable, ça.
On peut en douter, non?
Jean, est-ce que tu doutes que Jésus ait pu marcher sous les eaux?
Oui, je doute bon. Ça. Non, oui.
Alors,
je doute d'un tas de trucs, moi, en tant que religion.
Voilà, on peut en douter.
Ouais.
Mais quand vous racontez ça, un musulman vous dira, mais pourquoi Moïse écarte les eaux de la mer Rouge, vous trouvez ça crédible? Et nous, on ne peut pas trouver ça crédible que des anges aient pris le cœur de Mahomet et les lavé? Pourquoi vous, ça vous pose un problème? Et alors que Moïse écartant les eaux de la mer Rouge, ça vous pose aucun problème?
Je sais pas ce qu'il fumait quand même à l'époque, mais c'était de la bonne. Hein.
On pourrait vous poser la même question qu'à Jean Tellet tout à l'heure. Pourquoi avoir choisi Héloïse et Abélard alors qu'on a déjà tellement écrit sur eux? Pourquoi avoir choisi...
Parce que personne n'a jamais écrit sur Mahomet.
Non, honnêtement, je crois que l'idée première, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je suis né dans un pays musulman, j'ai grandi en Égypte. Je ne vais pas dire des trucs banals, mais enfin, on entendait les cloches sonner en même temps que le muezzin, et on partageait toutes les fêtes ensemble, et on n'avait aucun problème de religion. Jusque dans l'année 65, où j'ai quitté le Caire, mais aucun, ma voisine s'appelait Lévi, Mahomet, machin, tout ce qu'on veut. Et quand je vois cette transformation brutale de ce que fut une religion qui a éclairé le monde... L'islam a éclairé le monde. Cartographie, géographie, algèbre, mathématiques, astronomie. Ça a été énorme. Médecine, Avicenne. Jusqu'au XVe siècle, la faculté de Montpellier n'avait que les livres d'Avicenne. Donc quand on voit que jusqu'au XVe, XVIe siècle, cette civilisation nous a apporté des choses fantastiques, l'agriculture, enfin... Et quand je vois ce que c'est devenu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me suis posé la question... Pourquoi? Alors on me dit c'est le Coran. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas le Coran. C'est qu'il y a eu un homme à un moment donné qui a imposé une religion par l'épée et qui a des abrutis aujourd'hui qui disent tiens, c'était pas mal, on va faire la même chose. Voilà. C'est tout le drame actuel, c'est que ces imbéciles s'imaginent qu'on peut reproduire ce que nous avons fait nous avec les croisades. Débarquer à Jérusalem, décapiter la moitié de la ville... ou l'Inquisition.
Oui, mais on a l'impression, effectivement, que c'est un parallèle. Le catholicisme, tout ça, le christianisme, c'était 7 siècles avant la religion l'islam, musulmane, hein. L'islam. Mais donc, on a l'impression que là, ce que est en train de faire ce truc-là, c'est la même chose qu'il y a 7 siècles en France, avec les inquisiteurs et tout ça, que c'est comme si les religions à un moment devait vivre. C'est comme si les religions à un moment devaient vivre une crise d'adolescence. Le catholicisme a vécu sa crise d'adolescence et maintenant c'est autour de.
Mais même ici en Suisse, entre la réforme et les catholiques, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu comme sang versé aussi? À quelques pas d'ici, à Morges, il y avait. Bon, on a l'impression que l'islam est en train de passer par la même crise de démence par laquelle nous sommes passés au 15e siècle.
Tout à fait, oui.
Sauf qu'on est au 21e et qu'il y a Internet. J'espère que ça ne va pas durer 500 ans.
Qu'est-ce qui va se passer, justement? Ça peut être quoi, à l'avenir?
J'ai une théorie, Jean, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Je pense que on a réussi... Mais je vais être très violent, pardonnez-moi. Je pense que rester les bras ballants, comme on le fait, en les laissant avancer progressivement, l'Irak va tomber, un jour Bagdad, ils sont à une heure de Damas... Moi, je crois que c'est de la pure folie. Voilà. Puisque nous sommes en guerre, on prend les armes. Puisque nous avons été capables de réunir le trois quarts de la planète pour, malheureusement, détrôner M. Saddam Hussein, on sait ce que ça a donné. On a réuni l'Angleterre, le Canada, presque les Martiens, pour aller détruire ce mec qui avait en fait rien du tout. On n'est pas foutu de prendre 100 000 hommes. En 20 minutes, c'est fini. Ils sont 20 000. Ils sont 30 000. C'est même pas une armée. Ils n'ont pas d'aviation, ils n'ont pas de chars, ils n'ont rien. Vous faites débarquer quelques GI, un mélange d'anglais, de français et d'américains, l'affaire, elle est réglée.
Et ce qui est troublant, c'est qu'on ne le fait pas.
Parce que plus personne ne veut risquer une vie humaine sur le terrain. Obama s'est dégagé de tout, d'Afghanistan, de machin, plus un cercueil américain ne débarquera aux États-Unis. C'est la terreur de l'Amérique. Perdre un homme pourquoi à des milliers de kilomètres de chez eux, ils s'en foutent. Le jour où ils auront un problème comme le World Trade Center, on va les voir de nouveau se rameuter. Et nous, en Europe, on n'est même pas foutus de réunir une armée conséquente et aller déloger ces mecs. Mais je crois qu'il faut les déloger. Je pense qu'on ne peut pas les bombarder de temps à autre. Je crois que c'est très grave. C'est très grave ce qui se passe. Chacune de leurs victoires met en danger notre civilisation. Parce que ça attire vers eux des abrutis qui partent de Normandie ou d'ailleurs, disent, tu as vu, ils sont en train de... Ils vont prendre Damas et demain ils vont prendre le Caire et voilà. Moi je crois que malheureusement c'est la guerre.
On va donner la parole au public pour qu'il puisse vous poser des questions. Il y a une dernière chose que je voulais souligner, et ça situe peut-être la différence entre vos deux thèmes, indépendamment du sujet, bien évidemment. C'est le fait que parce que ce que vous abordez, Gilbert Sinoué, est particulièrement compliqué, vous éprouvez le besoin, il y a beaucoup de notes, pour toujours vous référer au fur et à mesure, aux faits, à l'histoire, etc. Vous vous êtes dégagé de cette obligation, vous, dans votre roman. Il n'y a pas de notes, il y a toutes les références à la fin.
Des notes de bas de page.
Ça situe un peu le...
Non, mais moi, j'étais obligé.
Obligé, voilà, c'est ça.
Mais j'en ai jamais, ça me fait vraiment merde, les notes de bas de page. Mais là, j'étais vraiment obligé.
Ouais, c'est trop compliqué, quoi. Alors que vous pouvez vous en...
M'en foutre complètement, ouais.
Hein?
Voilà.
Oui.
Et c'est ce que je fais, d'ailleurs.
Ah ben voilà, exactement. Par contre, à la fin, il y a les références de ce que vous avez lu.
Oui, bien sûr.
Vous rendez à ceux qui vous ont aidé à bâtir le... Voilà. Bon, mais écoutez, s'il y a une ou deux questions, elles sont les bienvenues. Oui, monsieur.
Pour monsieur Sinoué.
Vous n'êtes pas armé ?
Oui.
Pardon ? Vous n'êtes pas armé, ça va ?
Un peu barbu, quand même. Moi, je me désolidarise totalement de ce qu'a dit mon camarade.
Il n'a pas écrit la même histoire. Hein.
Lâche. Courage fuyant, oui.
Dans vos livres, l'odeur du jasmin,
le souffle du jasmin.
Le souffle du jasmin et puis le cri des pierres. Donc on s'arrête au Moyen-Orient en 2001.
Oui, World Trade Center, oui.
Et puis vous m'avez dit qu'il y avait un nouveau livre,
le troisième volume,
qui allait sortir. Donc on va trouver peut-être dans le roman la guerre dont vous...
Absolument. Non, je n'ai pas été aussi loin, parce que là c'est de la science-fiction. Non, je pars de World Trade Center et je m'arrête à maintenant, à la prise pratiquement de l'Irak et de la Syrie, et surtout du martyr des chrétiens d'Orient, dont je faisais partie. Quand je vois aussi la lâcheté totale des chrétiens du monde entier à l'égard de cette communauté qui a quand même été une des plus vieilles communautés chrétiennes de l'histoire... en Irak, entre autres, à Mossoul, en Syrie, et que je vois, qu'on regarde cette espèce de catastrophe. Voilà, donc j'ai voulu aussi évoquer ce problème.
Une autre question ? Oui, monsieur.
Elles fonctionnent, les arbalètes ? Bon, je pense qu'on vit à l'époque du choc des civilisations, donc je ne suis pas sûr qu'avec les armes on puisse vaincre une idéologie comme l'islam.
Pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas vaincre une idéologie comme l'islam ? Quand un pays vous déclare la guerre, qu'est-ce que vous faites ?
En plus, il ne faut pas parler de l'islam. En l'occurrence, ce n'est pas l'islam, ce sont des fanatiques. Ce n'est pas la même chose.
Quand vous avez une bande de fous furieux qui envahit votre maison et qui veut tuer votre famille, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez les armes. Je veux dire, quand un type débarque à Paris avec une Kalachnikov et qui flingue des dessinateurs, je ne sais pas, si un des dessinateurs avait une arme à ce moment-là, je pense qu'il aurait flingué ses mecs. On n'est pas dans un combat idéologique. Je suis désolé, mais on est dans un combat militaire. Si ces gens voulaient livrer un combat idéologique, qu'ils le livrent. thèse contre thèse, religion contre religion, moi je crois que, etc. Qu'on ait des débats, comme il y en avait en Espagne. Voilà, mais là, c'est pas ça. Là, c'est des mecs armés qui veulent notre peau. Excusez-moi, moi je vois pas comment on peut arrêter ce processus autrement. Je sais pas.
Puis moi, je voudrais dire, si vous permettez, qu'il faut vraiment arrêter de parler d'islam dans ce cas-ci. Ce n'est pas l'islam. Ce sont des fanatiques qui n'ont rien à voir avec la religion. Je suis désolée.
Est-ce que ce ne sont pas surtout des voyous? Parce qu'on parlait tout à l'heure des croisades et tout. Le coup des croisades, c'était quand même pour aller piquer tout et puis faire du fric. Et là, ces trucs d'islamistes et tout, c'est quand même pour piquer les puits de pétrole et tout ça. Et faire du fric. Et donc voilà, donc c'est des voyous.
Absolument. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, n'ont jamais lu le Coran. Ils ne comprenaient rien du tout. Ils ne savent même pas qui était.
Ah non, ils sont incultes.
Ils sont incultes, ça ne veut rien écrire. Oui. Et voilà, et il suffit qu'il y ait quelques abrutis pour les encourager. Et voilà.
Tout à fait.
Oui, à l'époque de Villon, moi j'avais raconté ça dans le jeu François Villon, il y avait ce qu'on appelait les compagnons de la coquille, les coquillards,
oui,
qui avaient la coquille comme pour Compostelle et tout, et qui étaient la plus grande bande de bandits d'Europe, qui pillaient des villes comme Dijon et tout, et en fait c'était juste des bandits, quoi.
On a parlé d'armes, en fait, je viens de réaliser qu'on est cerné là. On est dans un environnement incroyable. Bon, est-ce qu'il y a encore une question ou une intervention? Oui, monsieur. Oui.
Il y a une dame derrière. Oui, c'est pour monsieur Sinoué. J'ai noté tout à l'heure que vous disiez que la différence entre Jésus et Mahomet, c'était que l'un y allait par les armes et puis l'autre se laissait faire finalement. Mais Jésus, c'était un sacré combattant. Il a...
Non, mais indiscutablement, mais oui. c'était, je vois ce que vous voulez dire.
Oui, oui. Donc il a dû se retirer en Égypte. Enfin, il était pourchassé par les Romains, quoi. C'était... En fait...
Non, mais il n'a pas appelé aux armes. C'était un homme qui avait du caractère, quand il fout dehors les marchands du temple, quand il traite Saint-Pierre de diable, il a un caractère de cochon. Mais c'est pas un type qui a dit à ses apôtres « Armez-vous et on va aller occuper le temple ».
Mais il a quand même dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ».
Que, pardon ?«
Il a dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». On le trouve dans...
Ah non, là, vous faites une...
C'est assez contradictoire aussi, les évangiles.
Jésus n'a jamais dit cette phrase, pardonnez-moi. Là, vous faites référence au pape Léon, je ne sais plus lequel, qui s'attaque au Qatar, à l'hérésie Qatar, dans la région d'Avignon, Narbonne, etc., et qui envoie ses troupes assassiner, tuer les adeptes de cette hérésie. Et quand son lieutenant lui dit « Mais ils sont dans Narbonne, comment je vais les reconnaître? Comment je vais savoir qui est Qatar et qui ne l'est pas ?» Et l'autre lui dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. » Mais Jésus n'a jamais dit cette phrase, pardonnez-moi.
Il était très armé lors de ton arrestation, quand même. Puisqu'il...
Il était armé, Jésus?
Oui, ben, il a dit...
Pas du tout, c'est Saint-Pierre qui a dégainé.
Oui.
Et il lui a dit « Jamais, arrête
».
Non.
Mais il était avec des gens armés, disons.
Ouais, pas sa faute s'il y avait Saint-Pierre qui avait une épée, mais lui, en tout cas, il était
pas armé. Il y a une dame derrière vous, je crois, qui voulait poser une question également. Non. Derrière.
Ah, pardon. Merci. Peut-être pour retrouver un peu de légèreté, à Gentelet, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à votre prochain roman, le thème, voilà, c'est par curiosité.
Normalement, non. Même quand on regarde
ici,
avec des
pareil.
Yeux aussi adorables que les vôtres. Non, en tout cas, je veux arrêter les romans historiques. Là. Et, je veux faire un truc moderne et je veux faire très exactement l'inverse de ce que j'ai fait sur les derniers romans.
Moi, je devrais bien faire un polar.
Ouais, ça pas être un peu.
C'est complètement fou.
Ouais, mais ça serait pas être un polar, mais ça sera et en espérant que je ne vais pas me dire, oh là 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 là, pourquoi je n'ai pas continué et tout. Mais enfin, bon.
mais
il y a un moment, je me dis, pof, c'est bien de tout casser. Et,
c'est dangereux.
Mais voilà.
Très dangereux.
Il faut oser prendre
chaque
des
risques.
Chaque fois
que je l'ai fait, je me suis cassé la gueule.
Ah, ah oui.
Chaque
oui.
fois que j'ai
Merci,
tenté.
Merci, ça donne du courage.
C'est encourageant.
Bien la peine que je m'emmerde à venir jusqu'ici.
Non, mais tu t'en sortiras.
Oui, mais je sais pas sûr. Mais je disais à mon éditeur, finalement, le seul avantage d'être écrivain, c'est d'être libre. Et que si je dois faire un métier, c'est-à-dire continuer à creuser un filon et tout, autant faire un métier normal. Voilà. Mais non, puis c'est bien de se surprendre et tout. Et puis je vais essayer de bien le faire. Quoi.
Bon. Ben en tout cas, merci infiniment à vous deux pour cette belle façon de... Ah, pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Allez-y.
Pardon. Oui, alors ça s'adresse plutôt à M. Gentelet. Donc, vous avez déjà changé de style, si on peut l'imaginer, entre le magazine des suicides et les derniers...
Exactement.
Et ça a plutôt bien réussi.
Eh bien, voilà. Et c'est ce que m'a dit mon éditeur, parce que moi, j'avais fait des livres historiques et j'avais terminé Villon. J'avais passé 2 ans de suite. Je savais qu'après, j'allais me taper le Montespan, que ça allait me prendre 2 ans. À un moment, je me suis dit, je vais faire un truc pour respirer. Et puis, j'ai pas eu à le regretter. Et là, c'est pareil. D'ailleurs, je peux juste dire le titre du prochain livre qui sera comme une respiration, justement. Je me suis tapé là des livres où soit les mecs se font bouffer, ou bien c'est à Saint-Barthélemy, ils perdent leur couille, ou bien c'est une tueuse bretonne qui flingue tout le monde. Au bout d'un moment, j'ai waouh, on va respirer un peu.
Justement, là s'adresse ma question. Vous en avez parlé tout au début. Vous dites qu'il faut à un moment donné romancer entre deux faits historiques réels. Est-ce qu'il y a une recette justement pour ces livres? Je m'adresse aux livres plutôt roman biographique justement. Est-ce qu'il faut... Il y a une recette là. Parce que dans le Montespan, il y a aussi des passages qui sont assez crus, on peut le dire. Hein. Je me souviens d'une scène pour obtenir un collier.
Ah oui.
Elle est où son mari, le Montespan
perle,
est derrière un buisson.
C'est vrai.
Et même dans Overland, par exemple, aussi, on voit que...
Ça annonce assez... Héloïse, en fait.
Peut-être, ouais.
Mais
est-ce qu'il y a une recette, justement? Est-ce que vous prenez un petit peu de ça, un petit peu d'autre chose pour romancer?
Non, j'essaye de me faire plaisir, en fait. Le seul truc auquel je pense, et c'est sans doute la même chose pour Gilbert, c'est que j'ai envie d'essayer d'écrire le livre que j'aimerais lire. Et que si quelqu'un l'avait écrit, je ne l'aurais pas fait, quoi. Et dans la vie, dans mes goûts, il doit y avoir un petit peu de tout ça. Et puis je tombe sur des personnages, effectivement, le coup du collier de perles de la Montespan. En plus, j'ai vraiment appris que c'est comme ça qu'elle est récupérée, quoi. Et ça m'a plu. Et même dans Fleurs de tonnerre, il y a un petit moment où c'est un petit peu chaud aussi. Mais non, autrement, non. Non, de recettes, non. J'essaye, pour les chapitres, de démarrer sur une entrée, paf, que tout de suite on rentre, et puis de terminer les chapitres avec des fins en l'air pour qu'on ait envie de tourner la page. C'est ça un petit peu le truc qu'il y avait sur ces livres-là. Mais autrement, non, je ne crois pas qu'il y ait de recette.
Moi, j'ai une question pour Jean. Le carrosse, dans le
groupe Espoir. Ouais. Ah oui. Le carrosse, noir, oui. Et, oh, il était incroyable. Non. Et il a fait dresser des cornes de cerf dessus pour montrer à tous qu'il était cocu et que ça ne lui plaisait pas du tout. Et il a fait rajouter des cornes de cerf, des ramures de cerf sur son écusson. Non. Il était d'un culot, ce type-là. Le seul type qui s'est levé face au roi en disant « C'est pas possible, le roi ne peut pas tout se permettre et même aller se fournir en épouse dans les couples, dans les couples des autres et tout. » Et normalement, avec Louis XIV, un mec qui l'emmerde comme ça, ça dure 10 minutes, mais il est mort. Mais ce qui a sauvé Montespan, c'est que le pape menaçait Louis XIV, s'il arrivait quelque chose de trop grave à Montespan, d'excommunication. Et là, tout d'un coup, le roi de France excommunié, là c'est plus une affaire privée, là ça devient vraiment une grosse affaire politique, et donc voilà, il était obligé d'y aller mollo, Louis XIV.
Bien. Bien. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Bon, alors je vais rappeler, donc L'Envoyé de Dieu, c'est aux éditions de l'Archipel. Héloïse Houille, c'est chez Julliard. Et merci à tous les deux pour cette belle façon de mêler l'histoire et la littérature. Bonne soirée à tous.